Chers frères et sœurs, Saint Marc vient de nous rapporter deux petites paraboles de Jésus. Elles sont petites et elles parlent de choses qui semblent très petites, voire négligeables. La première évoque une graine mise en terre et que celle-ci, automatiquement, comme dit le texte grec, fait pousser, grandir, porter du fruit en vue de la moisson. La deuxième parabole met devant nos yeux une chose plus modeste encore, la toute petite graine de senevé qui, en dépit de sa petitesse, devient un grand arbre. Voilà les deux petites paroles de Jésus qui constituent la bonne nouvelle pour ce jour. Cependant, cette bonne nouvelle, en deux petites paraboles, semble ne pas se livrer entièrement du premier coup. Elle se cache plutôt. Est-ce pour introduire un peu de jeu dans nos habitudes mentales? Elle se cache pour s'abriter derrière des images et des comparaisons. Se cachant ainsi, voudrait-elle la bonne nouvelle peut-être nous inviter à écouter différemment ou écouter plus patiemment, avec un souffle plus long, nous encourager à nous mettre en quête, à la recherche de ce que Jésus voudrait nous dire, peut-être à chacun un peu différemment. Cherchons donc, interrogeons, acceptons même de nous laisser interroger, allant ainsi d'une certaine façon de quête en quête. Mais peut-être le premier pas de notre quête pourrait-il consister à nous associer à une autre quête, nous associer d'une certaine façon à une recherche à laquelle nous ne pensons guère spontanément, je veux dire à la quête de Jésus lui-même. De fait, ce qui ces derniers jours a éveillé tout à coup mon attention, c'est cette petite parole que Jésus glisse entre les deux paraboles. Une petite parole, une petite remarque, glissée en passant, et que j'ai mille fois entendue sans jamais la remarquer vraiment. Une parole qui me paraît pourtant précieuse, car elle semble nous faire entrevoir que Jésus lui-même se pose des questions. De fait, ne le dit-il pas? À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Face à son auditoire, Jésus semble tout à coup chercher ces mots. Lui, dont saint Jean affirme qu'il est en personne le Verbe, la parole de Dieu. C'est lui qui maintenant se pose, non pas une question rhétorique apparente, mais une vraie question, la voici. Comment lui, Jésus, le Verbe fait chair, peut-il dire? Comment communiquer? Comment mettre dans le cœur et l'intelligence de ses auditeurs ceux dont brûle son cœur à lui, son cœur de fils qui est un avec le Père? Comment faire comprendre ses auditeurs quelque chose de ce mystère dont il est totalement habité. Et comment l'exprimer en sorte qu'au moins ses disciples puissent entrevoir la réalité divine dont sa personne est inséparable. Cette réalité mystérieuse, trop lumineuse pour notre intelligence, qui s'appelle le règne de Dieu. Cette réalité toujours en train de venir, parce que Dieu, parce que le Père ne cesse d'envoyer sa parole et sa lumière aux hommes. Or, à l'époque de Jésus, l'attente du règne de Dieu était certes bien vive. Mais quel règne voulait-on voir arriver? N'était-ce pas avant tout un règne d'ordre politique qui s'impose par la force, par la violence, par des processus de domination? Un règne donc qui suppose des mains guerrières, au point que même Saint Jean-Baptiste, et même encore les disciples eux-mêmes après la résurrection de Jésus, vivent dans une attente qui ne correspond pas encore à celle de Jésus. Dès lors, n'était-il pas nécessaire que Jésus fasse entrer ses disciples dans une sorte de conversion intellectuelle, mentale, même culturelle, les faire entrer dans une nouvelle optique pour les faire comprendre que le règne de Dieu ne vient pas avec du tapage et avec de la violence, mais silencieusement, à travers des processus de maturation, des processus de croissance qui demandent du temps et donc qui demandent de la patience, mais aussi de l'espérance, du courage même et de la persévérance. Par les deux petites paraboles, Jésus ne désire-t-il pas nous aider à discerner la venue et la croissance du règne derrière le voile des événements, spécialement quand ils sont douloureux ou compliqués? Mais quelle est donc cette réalité du règne de Dieu? Si nous tenons compte de tout l'enseignement de Jésus, ne devons-nous pas affirmer que le règne de Dieu est l'épanouissement de la communion trinitaire parmi les hommes, l'épanouissement parmi nous de cette communion en laquelle Jésus est un avec le Père dans l'Esprit Saint, et l'avènement et la croissance silencieuse de ce règne, qui saurait l'arrêter? Cette communion d'amour qui est plus forte que tout. Ainsi, Jésus nous invite, nous presse même aujourd'hui, à nous confier totalement toutes les circonstances de notre existence, à nous confier entièrement en la fidélité du Père en qui il se repose lui-même en tout temps. Avons-nous vraiment déjà pris conscience en profondeur du désir le plus profond de Jésus? Son désir de nous voir apprendre à sa suite, à son école, à vivre toujours plus dans la confiance au Père, afin de devenir ainsi des sources relais de la confiance, en bénédiction pour un monde qui est si tenter à s'enfermer dans la méfiance. Aidons-nous donc, frères et sœurs, aidons-nous les uns les autres à vivre dans cette confiance qui n'a jamais quitté le cœur du Fils.